Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Un péage pour entrer dans le centre de Londres. Jamais une ville de cette importance n'avait mis en place un tel dispositif pour tenter de réduire le flux de voitures. Et bien demain, cela fera 15 ans que l'ouvrage a été lancé dans la capitale britannique. 15 ans plus tard, le nombre d'usagers du vélo dans la capitale britannique a doublé. Et oui, le nombre de voitures a baissé à Londres. Dans un même objectif, Paris multiplie ces dernières années les initiatives pour offrir davantage la chaussée aux citoyens. Les enjeux aujourd'hui sont considérables. L'environnement et quasiment la survie de certaines capitales qui sont aujourd'hui hyper congestionnées. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut tendre purement vers une interdiction des voitures dans les grandes villes du monde? C'est notre débat ce soir. Bienvenue à tous. Et face à face, Frédéric Errand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et urbaniste. Et Yves Carra, bonsoir.
Bonsoir.
Les porte-parole de l'Automobile Club Association. Alors d'abord, le constat que vous dressez l'un et l'autre sur la place de la voiture aujourd'hui en 2018 dans les grandes villes, les situations diffèrent, mais est-ce que partout, globalement, le nombre de voitures en circulation, selon vous, est en baisse dans les grandes villes, hein, Frédéric Errand?
Oui, c'est une tendance mondiale propre à tous les pays développés, dans toutes les grandes villes des pays développés, dans la partie dense de ces grandes villes, c'est-à-dire le centre élargi, le trafic automobile est en baisse. Et de façon souvent considérable. À Paris, moins 45% en 25 ans.
Mmh. Une accélération de cette baisse, c'est quoi? 10 dernières années? C'est 20 dernières années?
Le sommet a été atteint à Paris en 1990. Et c'est donc déjà sous Jacques Chirac, puis ensuite sous Tibéri, c'est-à-dire sous la droite parisienne, que le trafic automobile a commencé à baisser. Et puis la gauche n'a fait que continuer une politique de droite déjà entamée.
Yves Carra, vous partagez le même constat à Paris et dans les autres villes du monde.
Hein. Non, pour revenir sur Paris juste quelques secondes, effectivement, depuis 1990, c'est un rapport qui est sorti et on voit une courbe constante jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça quand Madame Hidalgo est très contente parce que la circulation baisse grâce à elle et grâce aux voies sur berge qui sont quasiment interdites aux voitures. Pour certaines complètement, c'est totalement faux, ça baisse depuis 1990. Donc il n'y a pas d'étude avant ou après qui pourrait attester qu'elle a eu raison de faire ça et de tordre le bras aux Parisiens et surtout aux 15 millions de franciliens qui sont vraiment dans une galère. Je peux vous dire, moi j'habite Paris, au cœur de Paris, c'est une vraie galère depuis qu'elle est là, sans système de remplacement pour la voiture.
On va faire un rapide gros plan justement sur cette capitale française. Vous faites nom de la tête, Frédéric Errand. La piétonnisation des voies sur berge n'accélère pas la baisse du trafic routier selon vous?
Non mais attendez, à Paris on est à 10% seulement de part modale pour la voiture dans l'ensemble des déplacements. Donc c'est dérisoire. Les déplacements se font essentiellement à pied à Paris, au moins à 55%, à 30% en transport public, en métro, en bus, en tramway. Un petit peu, le vélo ne cesse de croître à toute vitesse puisqu'on a 10 fois plus en 25 ans et un peu de moto. Bon voilà, donc la situation n'est pas du tout dominée par la voiture.
Même alors si pourquoi on est-ce qu'il faut dans
Paris. Alors il y a juste pardon, mais il y a juste quelque chose qu'il faut dire, c'est que là on parle de Paris, mais c'est vrai pour toutes les autres villes. Je suis allé à Florence, je connais bien Londres. On parle de Paris, mais il faut pas oublier, c'est pas un îlot isolé au milieu de la campagne. Il y a quand même 10 millions de personnes qui sont autour et qui subissent quand même les restrictions de circulation dans Paris. Donc Madame Anne Hidalgo a des difficultés à discuter avec effectivement la région Île-de-France qui est de l'autre bord, mais il faut pas oublier que les décisions qu'on prend à Paris influencent les 10 millions de personnes qui sont autour. Et n'oublions pas aussi que dans la campagne municipale, c'est 60 000 écolos avec un programme vraiment extrémiste en ce qui concerne les voies sur berge qui nous oblige maintenant ou qui l'oblige maintenant à faire ce plan de circulation.
Mais justement, voilà la vérité. Rien qu'au nom des objectifs environnementaux fixés par exemple par l'accord de Paris, est-ce que c'est pas nécessaire de justement piétonniser les voies sur berge et donc de réduire drastiquement l'utilisation de la voiture à Paris?
Elle se réduisait déjà la place de la voiture. Il faut bien sûr un petit peu moins de voitures parce que ça s'est développé d'une façon un peu anarchique. Et maintenant, il faut surtout mieux de voitures. Mais vous savez, par exemple, il y a 20% de voitures qui circulent en permanence dans Paris pour trouver une place. 20%. Ce sont des chiffres. Rajoutez des parkings, vous avez 20% pour se garer facilement et rapidement, vous avez 20% de circulation en moins. Alors, et puis il y a une chose aussi, les voitures sont de moins en moins polluantes. Et tant mieux, je vais vous dire, moi, dès que je peux respirer un air pur dans Paris, je serai le premier content. Les diesels ont progressé depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, sont 50 fois moins, enfin j'exagère peut-être un petit peu le chiffre, hein, mais 50 fois moins polluants. D'ailleurs, le diesel émet moins de CO2 que l'essence, puisque le CO2 remonte, puisqu'on a moins de diesel, et plus de particules fines, c'est vrai. Mais moins de CO2, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est sorti. Donc, on espère tous ça. Il faut...
Quand on voit que, par exemple, Oslo, la capitale norvégienne, prévoit qu'à partir de 2025, il n'y ait plus aucune voiture neuve qui émette du CO2. Vous en pensez quoi?
Plus aucune voiture neuve, donc que des voitures thermiques, alors.
Exactement.
Que des voitures électriques.
Non, et c'est ça, électrique. Est-ce que c'est ça l'avenir, justement, de la voiture? Est-ce que c'est la voiture électrique?
La voiture électrique, attention, soyons clairs, elle n'émet pas de CO2, mais elle pollue autant, mais différemment qu'un diesel.
D'accord.
Il faut produire l'électricité, c'est du nucléaire ou du charbon. Ensuite, il faut fabriquer les batteries. Moi, je vais dans tous les salons équipe auto et autres. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de recycleur de batteries aujourd'hui. Hein. Les batteries, il y a des montagnes de batteries en Chine, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, ça pollue autant, mais différemment. Il faut faire attention à l'électrique.
Vous en pensez quoi, Frédéric Herrand? Parce que ça ne réduit pas non plus la question du congestionnement des villes.
Je voudrais remettre tout cela en perspective. La voiture n'a cessé de croître, son utilisation n'a cessé de croître dans les villes occidentales depuis 1900, depuis sa création. Et à part les deux guerres mondiales, bon, elle a entraîné des excès, c'est-à-dire beaucoup de nuisances, du bruit, de la pollution, des accidents, mais aussi, ce qu'on oublie, une énorme consommation d'espace. L'espace nécessaire pour un automobiliste qui se promène dans sa voiture est incomparablement plus grand que
près
celui...
Près de 30% de la superficie est dédiée aux rues, aux autoroutes et aux parkings dans un environnement urbain moyen. Je vais au-delà de la voiture en disant ça. Hein.
Oui, mais non, mais c'est pas ça qui compte. C'est ramener à la personne transportée quelqu'un qui va au travail en bus et quelqu'un qui va au travail en voiture... la différence est de 300. Hein. L'automobiliste consomme 300 fois plus d'espace. C'est un problème. C'est pour ça qu'il y a de la congestion. On ne pourra jamais avoir assez de place pour la voiture. On ne peut pas tout faire en voiture. Donc voilà, on découvre que la voiture pose des tas de problèmes et on a donc décidé sereinement, tranquillement, peu à peu, de réduire sa place, de réduire sa part modale. C'est ce qu'on observe partout. Alors, les modes qui en profitent, ce sont bien sûr les transports publics, la marche, mais surtout le vélo, parce que c'est ce qu'il y a à la fois de plus pratique et de moins consommateur d'espace.
C'est vrai, hein, moi je suis abonné Vélib, je peux vous dire que je le prends souvent, c'est vraiment très agréable. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Alors nous, à l'Automobile Club, on défend pas la voiture à tout craint. On va dans le sens de l'histoire, évidemment.
Sur la responsabilité individuelle de la personne qui est à bord d'une voiture, 80% des voitures qui circulent en ville aujourd'hui, il y a une seule personne à bord. Est-ce que ça, c'est acceptable, justement, dans les questions de pollution, de congestionnement des villes?
Vous savez, il y a un universitaire où je suis allé à une de ses conférences, qui est du côté de Dijon, qui réhabilite complètement l'homme seul dans la voiture ou la femme seule dans la voiture. Je parle pas que dans les grandes villes. Hein. On est complètement pour le covoiturage. Et évidemment qu'il en faut et c'est une bonne chose. Mais il réhabilitait totalement la personne seule dans la voiture qui, le matin, va travailler ou revient. Alors, pas seulement dans les grandes villes, mais qui a ce quart d'heure, cette demi-heure ou ces trois quarts d'heure seul pour se reconnecter et pour déconnecter un peu de son travail ou se reconnecter à sa famille. C'est un sas social nécessaire. Et je vous jure, c'est une étude qu'il a fait sur des milliers de personnes et c'est bénéfique. On habite sa voiture. Alors, il faut faire attention à ces personnes qu'on voit seules. Il ne faut pas les accuser de tous les maux. Donc, c'est utile socialement.
Oui, mais enfin, Frédéric Herrand.
Encore une fois, il faut remettre ça en perspective. Il y a 1 milliard de voitures aujourd'hui déjà sur Terre. 1 milliard. On pense qu'il devrait y en avoir en 2050... 2 à 3 milliards. C'est juste pas possible. On n'a pas les ressources métalliques en particulier. Peut-être qu'on aura encore assez de pétrole, j'en sais rien. Mais les ressources métalliques, elles commenceront à manquer. Il faudra bien passer à autre chose.
Vous avez évoqué vélo, on va y revenir, mais... Justement, restons sur la voiture. La voiture est l'avenir du transport en commun. C'est ce qu'affirme le directeur de la communication du comité des constructeurs français d'automobiles. Ça vous parle peut-être, François Rivière, vous en pensez? Est-ce que la voiture peut devenir un transport en commun?
Alors, je suis tout à fait d'accord. On va être limité en ressources, pas forcément en pétrole, mais en terres rares pour les batteries, en métaux divers pour les voitures. Donc, c'est vrai, il y aura un problème. Donc, je vous l'ai dit, il faut un peu moins de voitures et surtout mieux de voitures. Et il faut... Effectivement, et je suis le premier à le faire, changer un petit peu ses habitudes. C'est-à-dire que si on peut se passer, moi je me force une fois par semaine à ne pas prendre soit mon deux roues, soit ma voiture, enfin j'en ai besoin tous les week-ends, mais à me forcer à changer un peu mes habitudes, à marcher s'il le faut. Quand il y avait de la neige, j'ai pas hésité à marcher, et même plusieurs kilomètres, et une heure ou deux, c'est très bon pour la santé.
Le covoiturage?
Le covoiturage, c'est excellent. Nous, on milite à fond pour ça. On va d'ailleurs créer avec d'autres automobiles clubs un covoiturage au niveau international. On est en train de travailler dessus. Il y a un vrai problème de covoiturage. Si vous voulez, c'est que on accepte difficilement, et on revient justement au statut social de la voiture, d'accepter d'être avec une voiture, avec une personne qu'on connaît pas, dans sa voiture à côté, soit qu'il soit tous les matins différente, soit qu'il soit tous les matins la même. On n'a pas envie de ça. Alors le problème aussi, un double problème avec le covoiturage, où que ce soit dans le monde, c'est que le matin, on peut éventuellement bien se caler pour y aller sur une heure. Mais au retour, rares sont les personnes qui peuvent dire, je pars exactement à telle heure de mon travail, il y a du travail en plus à faire, ou je peux partir avant, ou mon enfant est malade. Donc c'est très compliqué de trouver la bonne voiture au bon moment. C'est un des écueils du covoiturage, mais on est totalement pour, évidemment.
Frédéric Herrand, c'est une alternative possible, le covoiturage, mais c'est pas ce qui va éliminer les voitures des centres-villes. D'abord, puisque c'est la question du débat, est-ce que vous pensez que il faut aller vers des villes sans voiture? Est-ce qu'il faut tendre vers ça? À quoi ressemblera la grande ville du futur dans 20-30 ans?
Il est absurde de supprimer toutes les voitures. Tout le monde sait qu'elles sont tout de même utiles, d'abord pour les handicapés, pour...
Bien sûr, hors véhicules professionnels, j'entends, et hors situation d'urgence.
Pour les artisans, pour les services d'urgence, pour les taxis, mais... Cela veut dire tout de même que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, par rapport à ce qui reste encore dans Paris, on pourrait encore, je pense, assez facilement, d'après les villes plus en avance dans le monde, réduire d'à peu près d'un facteur 3, c'est-à-dire diviser par 3, le nombre de voitures dans Paris. C'est encore tout à fait possible.
En Suisse, par exemple, 40 à 50% des gens n'ont pas de voiture. Faut s'inspirer de ce
modèle. Encore beaucoup plus. Non, mais en fait, il faut aussi comprendre que ce qui se passe dans les centres-villes est en train de se diffuser peu à peu à la proche périphérie, puis ensuite aux grandes périphéries. Ce qui se passe dans les grandes villes est en train de se diffuser dans les villes plus petites et ensuite dans les villes moyennes. C'est un processus de diffusion en tache d'huile. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on n'a pas du tout ce n'est pas propre qu'au centre des grandes villes.
Yves Cara, il y a de plus en plus de projets qui voient le jour sur l'après-voiture, Postcar World en Suisse, Postcar Île-de-France dans la région parisienne. Malgré vos réticences, est-ce que ce mouvement est inéluctable?
Oui, il y a un sens de l'histoire pour réguler les voitures. Effectivement, on est à 1 milliard, on ne pourra pas absorber 3 milliards de voitures. Ouais, ça c'est clair. Donc, il y a de plus en plus d'habitants sur la Terre.
On est dans un moment charnière, clairement.
On est dans... pas forcément un moment charnière. Dire, on a mis 100, 120 ans pour effectivement installer la voiture dans nos villes et dans nos vies. Il faut pas en 10 ans vouloir tout bousculer. Il faudra un peu plus de temps. Maintenant, il faut bien être conscient qu'en 2017, on n'a jamais vendu autant de voitures. Les constructeurs automobiles se sont jamais aussi bien portés. Deuxième chose aussi, les taxes, rien qu'en France, rapportent à l'État 65 milliards. Si vous enlevez la moitié des voitures, votre ticket de métro, vous le payez 4 fois plus cher. Parce que ça finance aussi les transports en commun. N'opposons pas les transports, les moyens de transport. Il faut qu'ils soient tous complémentaires. L'intermodalité et
la réponse de Frédéric Herrand aux arguments que vous avancez.
Non, mais attendez. Bon, moi, je suis économiste des transports, c'est mon métier. Les taxes perçues par l'État sur les carburants financent le réseau routier et une petite partie des externalités négatives, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire des nuisances, des effets négatifs des transports. Une petite partie seulement. Donc en réalité, l'automobiliste n'est pas la vache à lait du fisc. C'est le contraire. Ce sont ceux qui ne prennent pas la voiture qui financent en partie la voiture.
Mais les transports en commun sont financés par l'État. Hein. Sinon, vous payez à Londres trois fois plus cher le pass Navigo.
Hein. Justement, on évoque les transports en commun. Est-ce que les transports publics à la demande, c'est ça l'avenir? 100% des véhicules privés pourraient être absorbés par 3% de navettes appelables à la demande. C'est une étude qui concerne la capitale portugaise, Lisbonne. Vous faites nom de la tête, Frédéric Herrand.
On comprend tout de suite que c'est impossible.
On précise un transport public à la demande, des itinéraires qui seraient sans cesse reconfigurés selon un système de géolocalisation. Pourquoi c'est pas possible?
Parce que on se déplace en général, déjà la moitié des déplacements ont lieu aux heures de pointe. Donc on ne peut pas redistribuer comme ça tous les déplacements. Vous voyez, il faut... Je ne sais pas, je ne connais pas cette étude, mais elle est certainement fausse, hein, c'est sûr.
C'est une étude qui concerne la capitale portugaise, Lisbonne. Mais en gros, vous nous dites que la clé, c'est le vélo.
Mais non.
Alors,
la clé, c'est un ensemble de modes de déplacement alternatifs à la voiture. La voiture, déjà, elle peut jouer un rôle pour ceux qui en ont vraiment besoin, on l'a déjà dit. Elle peut être partagée, mais ensuite, c'est un mélange de transport public, de marche et de vélo, qu'il ne faut pas oublier, effectivement. C'est actuellement le mode de déplacement qui augmente le plus vite dans toutes les grandes villes occidentales, y compris, par exemple, dans des pays comme les États-Unis, où on n'imagine pas que, à Washington, le vélo augmente de 14% par an. Enfin, c'est incroyable.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un frein mentalité? Je vais juste terminer.
Je suis tout à fait d'accord avec
Frédéric Errand. Est-ce qu'il n'y a pas un frein mentalité? Parce qu'on évoquait à Londres le nombre d'usagers de vélo qui a doublé en 10 ans dans le sillage de la mise en place du péage urbain en 2003. À Copenhague, il y a plus de vélos en centre-ville que de voitures. À Paris, le vélo, c'est 3% des déplacements. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas, selon les villes, je pense à Paris par exemple pour le vélo, il n'y a pas des freins, des obstacles
non,
dans les
parce
mentalités
que, vous voyez, ce qu'on présentait comme culturel, quand on ne sait pas expliquer quelque chose, on dit c'est culturel, il y a des freins, c'est culturel. Mais en fait, personne n'aurait imaginé, dans les années 70, qu'il y aurait autant de cyclistes dans Paris aujourd'hui. En 1976, on a une statistique qui nous dit 0,2% de part modale pour le vélo. C'est-à-dire quasiment rien, quoi. Il n'y avait pratiquement pas de cyclistes dans Paris dans les années 70. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Hein. Il y a quelque chose comme 20 fois plus. Bon, voilà. Ce qu'on pensait comme étant culturel, un trait culturel des Parisiens, ils ne feront jamais de vélo, c'est avéré faux.
Yves Carra, vous êtes d'accord avec Frédéric Errand? Finalement, il n'y a rien à créer de nouveau. Il faut développer ce qui existe aujourd'hui, le vélo, les transports en commun.
100% d'accord, à tel point que nous, Automobile Club, on organise des stages de mobilité pour les piétons et les vélos. Parce que des personnes qui sont un peu âgées, qui n'ont jamais fait de vélo, qui ne sont pas en sécurité en ville ou qui en ont très peu fait, il faut se réhabiliter en sécurité en ville, notamment pour les vélos électriques. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il faut effectivement modifier un petit peu nos habitudes et pas prendre la voiture pour faire 2 km pour aller acheter le pain. Ouais, ok, ça, c'est vrai, il faut le changer. Mais il ne faut pas opposer. Nous, on est 100% pour la mobilité avec tous les instruments qu'on met à notre, que ce soit la trottinette, j'ai même une trottinette, je suis en roller, je suis en vélo, je suis en scooter, mais avec la voiture aussi, un peu moins de voiture, mais surtout mieux de voiture.
Frédéric Errand.
C'est un peu plus compliqué, parce qu'on ne fait en ville, dans notre vie, chaque jour, on fait en moyenne 3 à 4 déplacements par jour. Bon, c'est une moyenne, qui cache de grandes disparités. Et ce qui veut dire que si on encourage un mode de déplacement, quel qu'il soit, eh bien, on le fait forcément au détriment d'autres modes. Donc quand on dit il faut pas opposer les modes, bien sûr il ne faut pas les opposer, mais de fait ils sont concurrents, qu'on le veuille ou non. Et donc vous voyez, quand on encourage les déplacements à vélo dans Paris par exemple, qui sont les nouveaux cyclistes? Eh bien, c'est très intéressant de savoir ça. C'est d'abord des piétons, pas des automobilistes. Ensuite, des usagers des transports.
C'est un problème.
Ensuite des usagers des transports publics et un peu l'automobiliste. Mais si on encourage le vélo à assistance électrique, il y a déjà beaucoup plus d'automobilistes qui acceptent de se mettre au VE, y compris des 2 roues motorisées qui ont peur du risque que ça représente, du risque d'accident que ça représente ce mode de déplacement.
Yves Carra, vous ne pensez pas que ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a peut-être des freins culturels selon les villes? Vous évoquiez justement la nécessité parfois en France d'être seul dans sa voiture, ce sas de décompression. C'est pas du tout le cas dans d'autres villes du monde.
Oui, rien n'est comparable. Quand vous discutez avec toutes les personnes, des conférenciers ou des urbanistes ou autres, on peut pas dire, voilà, dans telle ville, il fonctionne comme ça, on va faire comme ça pour Paris ou pour une autre ville.
Donc on peut pas généraliser cette question de la ville sans voiture.
Chaque ville a ses caractéristiques, ses caractéristiques sociales, historique, culturel, n'empêche qu'effectivement, de toute façon, il faut arriver, et je le redis encore une fois, c'est vraiment une phrase qui me plaît, à un peu moins de voitures, mais surtout mieux de voitures, mieux organisées. Puis je voudrais quand même rappeler que, on l'a dit tout à l'heure, et vous l'avez dit vous aussi, les voitures, ça sauve la vie. Parce que si vous donnez un vélo aux pompiers, aux gendarmes, aux machins, aux infirmiers, ils n'arriveront pas à temps à l'hôpital. Donc faut pas l'oublier aussi.
C'est
socialement, on a créé quelque chose, faut pas de toute façon jeter le bébé l'eau du bain
et
avec.
Tout ça veut dire qu'il risque continuer à avoir une logique peut-être à 2 vitesses selon les capitales concernées par cet objectif peut-être de ville sans voiture. Merci beaucoup à vous Yves Carin, porte-parole de l'Automobile Club Association. Merci Frédéric Errand, économiste, urbaniste, auteur du livre Le Retour de la Bicyclette. Merci à Fabrice Viollet qui a réalisé ce débat et merci à Florence Ponce qui l'a préparé. Restez à l'écoute des RFI dans 30 secondes, c'est le